Bienvenue sur le podcast Infrastructure et Développement. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux de développement des infrastructures en Afrique. Dans ce troisième épisode, nous parlerons du projet PPP d'autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD ou Autoroute de l'Avenir. Cet épisode est diffusé en deux parties. Dans la première partie de cet épisode, diffusée il y a deux semaines, nous avons répondu aux questions clés suivantes. Quelles sont les caractéristiques techniques du projet de l'autoroute de l'avenir? Comment le projet est-il structuré pour son développement et son exploitation? Quelle est la répartition des risques entre la partie publique et la partie privée? Existe-t-il des enjeux liés à une clause de paysage dans ce projet, notamment avec le développement de projets potentiellement concurrents, dont le train express régional de Dakar, TER Dakar-Diamniadio-AIBD. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à le faire pour avoir une meilleure compréhension de ce projet. Dans cette deuxième partie, nous apporterons des réponses aux questions suivantes. Quels sont les avantages offerts par la réalisation de ce projet sous un contrat PPP? Quelles sont les retombées socio-économiques du projet en phase travaux, mais également en phase exploitation? Qu'est-ce qui fait du projet de l'autoroute de l'avenir un exemple de PPP réussi? Qu'est-ce qui a motivé la renégociation du contrat entre 2019 et 2021 et quelles sont les principales conclusions de ces renégociations? Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à Cheriat Diouf, le secrétaire général de la société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'avenir, CKSA. Cher est un ingénieur de conception en génie civil de l'École polytechnique de Thiès avec plus de 15 ans d'expérience. Il a commencé sa carrière dans les travaux routiers avant d'aller dans le contrôle technique. De 2012 à 2019, il était le responsable infrastructure de l'autoroute Dakar-Diamniadio-AIBD. Depuis 2019, il occupe le poste de secrétaire général au sein de CKSA. Bonjour, cher.
Bonjour, Mamoudou.
J'aimerais maintenant revenir sur les avantages des projets PPP en général. Quelques avantages qui sont mis en avant dans les contrats PPP incluent la maîtrise des coûts et des délais. Donc, une recherche réalisée par McKinsey avait trouvé que 98% des mégaprojets subissent des dépassements de coûts de plus de 30% et que 77% ont au moins 40% de retard. L'autre avantage sont les innovations technologiques que peut apporter la partie privée. Ceci est surtout accentué lorsqu'on laisse plus de liberté à la partie privée dans la conception du projet. La partie publique mettrait plus l'accent sur les résultats attendus et la partie privée apporterait des solutions innovantes pour l'atteinte des objectifs. L'autre, le dernier, peut-être un dernier avantage, est le renforcement de capacité du personnel du pays et des entreprises locales, notamment à travers la sous-traitance. Pourriez-vous nous rappeler dans quelle mesure ces avantages se sont manifestés dans ce projet?
Bon, déjà, sur la maîtrise des délais et des coûts, ce que je peux dire, c'est qu'on avait sur le contrat initial 44 mois de travaux. Il fallait mettre en service le 1er août 2013. Ça a été respecté. Sur Diamniadio-AIBD, c'était 29 mois de travaux également. Et il fallait mettre en service en août 2016. Également, ça a été respecté. Et les coûts de construction, comme ils étaient forfaitisés, donc les prix étaient fermes, il n'y a pas eu de dépassement. Les seules modifications de coûts qui sont intervenues l'ont été du fait de demandes additionnelles formulées par l'autorité concédante. Donc, c'est ce qui a généré quelques avenants pour ajouter peut-être des passerelles, ça et là. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les coûts ont été maîtrisés. Donc, ces deux principaux risques qui se présentent sur ce type de projet ont été globalement maîtrisés par l'opérateur privé. Maintenant, je signalerai un point, c'est qu'on y arrive non pas parce que c'est le seul fait de l'opérateur privé, mais c'est parce qu'il y a eu également un dialogue permanent entre l'autorité concédante et le concessionnaire pour mitiger en fait les éventuels aléas qui sont survenus en cours de projet et qui pouvaient impacter le calendrier de réalisation des travaux. C'est des choses qu'on attend sur des projets comme ça et c'est des choses que, sur lesquelles on est arrivé à être performant. Voilà. Sur les aspects technologiques également, je pense que notre savoir-faire combiné à notre connaissance de l'environnement local, ça nous a permis d'apporter des solutions, de pouvoir mettre en œuvre des solutions techniques. Je donne un exemple, le fait que, tenant compte de l'environnement local où les gens utilisent très peu la carte bleue, donc il y a très peu de personnes qui sont dans les dispositions, de passer sur des modes de télépéage et autres. Donc on a dû innover et créer une solution, un badge prépayé, le badge Rapido. Comme on se rendait compte que les solutions prépayées fonctionnent bien au Sénégal avec les cartes téléphoniques, on a mis en place un badge prépayé pour justement avoir à la mise en service une solution de paiement autre que le paiement manuel. Donc aujourd'hui, on a démarré avec cette solution Rapido, 10% à peu près de taux d'utilisation. Aujourd'hui, on tangente les 50% de taux d'utilisation. Donc ça veut dire que c'est un produit qui a vraiment connu du succès. En termes de renforcement de capacité, ce que je veux dire, c'est que le transfert de compétences, qui était également un des objectifs majeurs d'EFAGE à travers ce projet, il a pu se faire et c'est un réel succès. Aujourd'hui, sur les 430 personnes qui s'activent entre l'ACECA et EFAGE Opérations Services, nous n'avons que 3 expatriés. Le comité de direction de l'ACECA, c'est 2 expatriés. Donc aujourd'hui, l'essentiel du management est sénégalais. Donc on a pu vraiment opérer ce transfert de compétences. Et ça a été possible parce qu'aussi on a trouvé sur place des ressources humaines de qualité.
Intéressant, intéressant. Et en phase de travaux, est-ce qu'il y a eu beaucoup de transferts, on va dire, de sous-traitance dans le cadre de ce projet-là?
Oui, sous la phase travaux, déjà le contrat nous avait fixé une obligation de sous-traitance. Il y avait une enveloppe minimale indiqué dans le contrat de concession de travaux à sous-traiter à des entreprises locales. On est allé au-delà de cette obligation, aussi bien pour le contrat initial que pour le contrat complémentaire. Idem, pendant la phase travaux, il y a eu 1500 personnes qui opéraient sur les travaux et on a fait appel à beaucoup de sous-traitants. Je donne l'exemple des passerelles piétonnes qui ont été réalisées par une société sénégalaise. Donc, toutes les passerelles de l'autoroute ont été réalisées localement par une société sénégalaise. Donc, c'est un exemple de sous-traitance réussie.
Merci, Cher. Clairement, effectivement, on peut dire que les 3, en tout cas, les avantages dont j'ai parlé, la maîtrise des coûts, la maîtrise des délais, les innovations technologiques, mais également le transfert de compétences, ont été retrouvés dans ce contrat. Plusieurs études de cas citent ce projet d'autoroute Dakar à AIBD comme un exemple de contrat PPP réussi. Pourriez-vous nous partager ce qui en fait un projet PPP réussi? Quels sont les facteurs de réussite de ce projet?
S'il faut parler des facteurs de succès, je dirais d'abord une relation de confiance entre l'autorité concédante et le concessionnaire. Ça a permis vraiment de traverser les périodes difficiles du projet, quand il y a eu des retards de paiement sur la subvention, quand il y a eu des retards dans la mise à disposition des emprises, quand il y a eu également des demandes de modification d'ouvrage. C'est parce qu'il y avait un dialogue permanent, serein, un dialogue fondé sur la confiance et l'esprit de partenariat entre l'État et le concessionnaire qu'on a pu vraiment mener à bien ce projet. Après, l'autre élément de succès, c'est la connaissance de l'environnement local. Bon, j'y reviens pour la deuxième ou la troisième fois dans l'entretien. On avait quand même EFAGE Sénégal qui connaissait bien l'environnement local et qui, par ce biais, a pu tirer, par exemple, la branche EFAGE-TP qui amenait l'expertise étrangère. Et ensemble, ils ont pu vraiment mener à bien le projet. Ce que je signalerai également, c'est qu'il y avait une forte volonté quand même du concessionnaire à proposer une offre de service adaptée aux contraintes locales. Pendant toute la durée du projet, nous avons cherché à trouver des solutions aux problématiques qui se posaient localement. L'idée, c'était pas d'importer un savoir-faire, mais vraiment dans une logique d'ancrage territorial, d'apporter notre expertise, mais en l'adaptant au contexte local. C'était vraiment un des enjeux majeurs que nous nous étions fixés. Bon, le dernier point, le dernier élément que je souhaiterais citer, c'est le fait que on a un niveau de service qui est apprécié des usagers et ça garantit un consentement à payer et un trafic qui est au rendez-vous. Trafic au rendez-vous, c'est recette au rendez-vous. Ça fait donc de ce projet un succès commercial. Donc, c'est essentiellement ça les principaux éléments de succès que je citerai.
Merci beaucoup, cher. Pouvez-vous partager un peu sur les retombées économiques de ce projet, aussi bien en phase construction qu'en phase, on va dire, exploitation?
S'il fallait parler des retombées économiques, d'abord sur les retombées économiques directes, donc les recettes qui sont générées pour le compte de l'État, bon, au titre de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les revenus, des droits de douane, des taxes opérationnelles et des autres retenues diverses. Donc la SPV, donc la CECA, a déjà versé à fin 2021 l'équivalent de 53 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Si je donne l'exemple de l'année 2021, l'équivalent de 36% du chiffre d'affaires hors taxes fait retour à l'État, donc à travers ces différentes taxes. Et des estimations faites sur la base du modèle financier à fin 2021 incluent les dividendes que percevrait l'État du fait de son entrée récente au capital, on devrait tangenter les 1 000 milliards de francs CFA de recettes directes pour l'État. Donc, ce n'est pas négligeable. Après, concernant les retombées indirectes, elles sont nombreuses. Je pense que l'un des objectifs du projet, c'était de faciliter les échanges de biens, de biens et de services et les déplacements des personnes entre le centre-ville et la banlieue dakaroise. Aujourd'hui, c'est un objectif atteint. L'objectif du projet, c'était également d'améliorer les conditions de sécurité sur la route entre Dakar et sa banlieue proche. C'est le cas également. Et le projet a eu un impact majeur sur l'aménagement du territoire, sur la démographie, sur le logement et la valorisation du foncier. Il est devenu très facile maintenant d'accéder à des zones comme Rufisque et Diamniadio. Autre retombée indirecte, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, le projet, aussi bien sur sa phase construction que sur sa phase exploitation, sollicite beaucoup les petites PME locales. Donc, l'équivalent de 50% du chiffre d'affaires de la CECA en 2020 a été passé en commande à des sociétés de droit sénégalais. Donc, le projet contribue économiquement pour beaucoup. Après, un des éléments fondateurs de ce type de contrat, c'est le fait que l'État n'a pas d'obligation de dépenses sur le volet entretien, renouvellement du patrimoine. Donc aujourd'hui, nous allons devoir réinvestir plus de 140 milliards sur le gros entretien renouvellement et nous dépensons chaque année de l'argent pour faire la maintenance courante. Donc tout cela, c'est des ressources publiques qui sont préservées. Le patrimoine est bien entretenu et il revient à l'État en fin de contrat à zéro franc. En termes d'emploi, donc sur la phase travaux, il y avait plus de 1500 personnes qui étaient mobilisées entre les équipes de construction et les sous-traitants. Et en phase exploitation, nous avons 430 personnes qui sont réparties entre la CECA et FH Opération Service. Et nous avons également 200 personnes qui opèrent en tant que sous-traitants. C'est pour assurer la sécurité des sites, c'est également pour assurer le nettoyage et l'entretien des espaces verts. Donc, on a à peu près 200 personnes qui s'activent autour de ces activités. Donc, on a globalement 630 à 640 personnes en phase exploitation qui sont en emploi à temps plein sur le projet.
Merci beaucoup, cher. Ces retombées économiques et sociales sont certainement très importantes à mesurer et à suivre dans le cadre de ces projets. 1500 personnes employées en phase travaux et 640 personnes en phase exploitation, ce n'est certainement pas négligeable quand on sait l'enjeu majeur de l'emploi dans le pays, notamment celui des jeunes. Vous avez également mentionné 1 000 milliards de recettes directes de l'État. Je précise que c'est bien à la fin du contrat que ce cumul de recettes est espéré, à savoir en 2044. L'entrée en capital de l'État, bénéficiant ainsi des dividendes, a certainement beaucoup joué sur ses possibilités de retombées financières. C'est une bonne transition pour aborder le point sur les renégociations. Nous avons vu que le contrat a dernièrement été renégocié. Pour certains, ceci serait le fruit d'une pression sociale qui considérait ce contrat comme léonin. Pourriez-vous nous parler un peu de ces renégociations?
Bon, tout d'abord, j'aimerais préciser, Mamoudou, qu'en fait, les discussions qui ont eu lieu récemment avec l'État du Sénégal et qui ont abouti à des modifications sur les contrats de construction ne sont pas le fruit d'une pression sociale opérée. Pourquoi? deux des décisions majeures qui sont intervenues à l'issue de ces discussions sont des décisions qui interviennent parce qu'étant déjà prévues dans les contrats de concession. C'est lesquelles? Je prends le cas de la redevance domaniale qui a fait beaucoup parler. En fait, il était déjà prévu dans le contrat de concession depuis 2014 qu'en 2019, que les parties allaient se revoir pour rediscuter des modalités de révision de cette redevance domaniale qui était fixée, entre guillemets, au franc symbolique, à 1000 francs CFA. Donc, pourquoi c'était 1000 francs CFA? C'est parce que le projet n'était pas suffisamment rentable. C'est ce qui a d'ailleurs motivé le fait qu'il y ait une subvention publique. On aurait, dès le début, mis la redevance domaniale à un niveau élevé. Ça n'allait avoir pour effet que d'augmenter le niveau de subvention que l'État allait verser. Donc, c'était assez intelligent, je pense, de dire on laisse la subvention au début au franc symbolique et puis on se donne un rendez-vous pour en rediscuter. C'était le cas, donc il fallait en rediscuter à partir de 2019. Ça a été fait, les parties ont discuté et ont trouvé un nouvel accord. Pareil pour l'entrée au capital, c'était prévu au contrat depuis 2014. Donc, l'État a pu, avec les discussions actuelles, acter cette entrée au capital. Donc, c'est pour dire qu'en fait, le contrat qui, si aujourd'hui, parce que ces dispositions ont été modifiées, le contrat n'est plus léonin, c'est que le contrat n'était pas en soi léonin parce que ces modifications étaient prévues depuis le début. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2018, il y a eu une baisse des tarifs décidée par l'État, peut-être du fait d'une pression sociale. Et cette décision de baisser les tarifs, ça a accéléré en fait les discussions parce qu'il fallait, après que l'État ait pris cette décision, travailler aux modalités de prise en compte des incidences de cette décision sur le contrat de concession. Donc c'est ce qui nous a permis de cheminer sur 2 ans avec des discussions qui ont mobilisé les deux parties et des experts pour aboutir à de nouvelles dispositions. Ce que je trouve positif maintenant sur ces discussions, c'est qu'elles ont permis à chaque partie de mobiliser des experts suffisamment cherchants sur le domaine et reconnus mondialement, qui ont pu avoir une appréciation réelle de la rentabilité économique du projet. C'est un débat qui est là depuis quelques années et qui ne se passe pas que sous le ciel sénégalais. Je pense que dans d'autres pays, la problématique de rentabilité des sociétés autoroutières se pose. Donc, les experts se sont réunis et ils ont pu au moins converger sur la réelle rentabilité économique du projet. Avant, on annonçait des rentabilités qui étaient disproportionnées et qui n'étaient pas du tout la réalité du projet. Là, les experts ont pu travailler pendant des mois et puis aboutir à une réelle appréciation de la rentabilité économique du projet.
Merci, cher. Je pense que c'est très important. D'abord, il faut que les gens, effectivement, sachent que dans ce type de contrat, il y a des rendez-vous qui sont calés pour essayer de rediscuter de ces projets-là. Je pense que ça, beaucoup de personnes aujourd'hui au Sénégal ne savaient pas nécessairement que toutes ces renégociations-là, c'était effectivement des dispositions qui étaient déjà prises dans le cadre contractuel. Et il est important, effectivement, que dans les deux parties, qu'on ait des experts assez outillés pour permettre de bien gérer ce type de contrat. Pourriez-vous juste nous dire, en résumé, quelles sont les principales décisions qui ont été prises à l'issue, on va dire, de ces négociations-là?
Bon, à l'issue de ces négociations, on a procédé aux modifications suivantes. D'abord, on a fusionné les deux contrats en un seul. Au début de l'entretien, j'avais dit qu'il y avait un contrat initial Dakar-Diamniadio, un contrat complémentaire Diamniadio-Aïbéré. On a fusionné les deux pour avoir maintenant un seul corps de contrat. Il y a eu la révision de la redevance domaniale, donc elle passe de 1000 francs à 2% du chiffre d'affaires, avec un minimum de 800 millions de francs CFA par an. Il y a eu une modification du mécanisme de partage des fruits. Il y en avait un dans chacun des contrats, mais les dates d'activation, par exemple, pour le contrat initial, c'était vers 2028. Là, les parties sont tombées d'accord pour activer le mécanisme de partage des fruits dès l'exercice 2021. Donc, l'État, cette année, par exemple, touchera l'équivalent de 2,4 milliards au titre du partage des fruits. Ensuite, il y a eu une décision très importante pour les usagers, c'est le fait qu'il y a eu un gel de l'indexation des tarifs de péage jusqu'en fin 2025. C'est à partir de 2026 que les tarifs devront être révisés de l'inflation. L'entrée au capital de l'État qui a pu être actée à travers ces négociations, c'était prévu dans le contrat, mais là, on est tombé d'accord sur les modalités de cession, prise de cession, nouvelle gouvernance de la société. Donc l'État est désormais rentré au capital et profitera à hauteur de 25% du bénéfice net réalisé par la société. Il y a eu l'extension également de la fin de la concession de 2039 à 2044 qui vient en partie compenser toutes les concessions faites par FH dans le cadre de ces discussions, à savoir la baisse des tarifs et la révision de partage des flux, et donc toutes les concessions faites. Mais essentiellement, ce qu'il faut dire, c'est que ça vient compenser la baisse des tarifs. Et autre volet important, c'est qu'on a une autoroute qui est en surperformance du point de vue du trafic, mais ça veut tout simplement dire que les infrastructures doivent être adaptées. Soit il faut qu'on opère à des extensions ou à des modernisations des équipements et des infrastructures. Donc il y a plus de 200 milliards de francs CFA qui vont être réinvestis sur le projet d'ici la fin du contrat. Donc c'est globalement ça les modifications. Dans l'ensemble, nous pensons que c'est un excellent accord. Je pense qu'il permet à toutes les parties de préserver leurs intérêts. Et ça met de la sérénité sur le projet. Et puis, ça nous permet d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité.
Merci beaucoup, cher. Peut-être juste pour préciser, au niveau de la redevance domaniale aujourd'hui, quelles sont, on va dire, les nouvelles décisions qui ont été prises sur ce point-là, et également au niveau des investissements complémentaires, qu'est-ce qu'on envisage concrètement?
Bon, ce qu'il faut dire pour la redevance domaniale, c'est qu'aujourd'hui, elle est fixée à 2% du chiffre d'affaires. Donc, chaque année, la société concessionnaire versera l'équivalent de ce montant à l'État du Sénégal au titre de cette redevance. Donc, elle passe de 1000 francs à minimum 800 millions de francs CFA. Cette année, par exemple, elle fait 803 millions sur l'exercice 2021, pour être plus précis. Concernant les investissements complémentaires, on devrait procéder à l'extension à 2x3 voies de l'autoroute dans un premier temps jusqu'à Rufisque, puis ensuite ce sera prolongé jusqu'à Diamniadio d'ici la fin du contrat. On réalise également la complétude des diffuseurs de Kermassar et de Rufisque S. C'est des diffuseurs qui aujourd'hui sont en demi-diffuseur, donc il n'y a que deux bretelles qui sont orientées Dakar. On doit réaliser les deux autres bretelles orientées Diamniadio. C'est des choses qui sont prévues sur l'horizon 2023-2025. Après, on procédera à la réalisation de l'éclairage sur tout le tronçon. Bon, ce qu'il faut dire sur l'éclairage, c'est que le contrat prévoyait déjà que sur toute section où le trafic atteindrait 50 000 véhicules par jour, que l'on procède à l'éclairage. On a déjà réalisé en 2020 l'éclairage sur Kiaroy-Kermassar parce que le trafic avait atteint 50 000 véhicules par jour sur ce tronçon. Donc c'est une disposition qui existe au contrat depuis 2009. Donc là, on a sanctuarisé les dates de réalisation de ces travaux pour éclairer le restant du tronçon. C'est globalement ça les investissements majeurs que je pourrais citer.
Merci, cher. Et tout cela fera plus de 200 milliards en CFA pour les investissements. Donc, juste peut-être pour finir, je sais qu'on peut y rester plusieurs heures, mais j'aimerais bien finaliser avec mes deux questions préférées. D'abord, nous voyons de plus en plus de pays en Afrique faire appel à ce mode contractuel, à savoir les PPP, pour le développement des infrastructures. À votre avis, quels sont les trois enjeux majeurs pour le montage de ces contrats? Quelles solutions pourraient aider à surmonter ces enjeux?
Bon, le premier enjeu, je pense, c'est vraiment le cadrage institutionnel, faire en sorte qu'il y ait des textes législatifs, réglementaires et tout, qui cadrent en fait la mise en place de ce type de projet sur ses aspects mise en concurrence, sélection, suivi, évaluation, mais également de régulation en fait des projets une fois qu'ils sont développés. Donc, je pense qu'il y a le Sénégal a par exemple fait pas mal d'efforts sur cet aspect et je pense qu'on a un cadrage qui a même évolué depuis la première loi CET, donc c'est assez itératif. Je pense qu'il y a du travail qui a été fait pour améliorer ce cadre, le rendre le plus attractif possible pour les investisseurs. C'est le premier point de mon avis. Après, il faut que le climat des affaires également qui soit favorable vraiment à au déploiement de ce projet, au fait que des investisseurs puissent accepter de venir prendre le risque d'investir sur des projets de ce type. Donc, par climat des affaires, je parle du cadrage macroéconomique, de la bonne gouvernance, de l'allègement des procédures administratives. Donc, un millefeuille administratif, ça peut se révéler être néfaste pour ce type de projet. Quand on est sur des projets où les délais sont importants, on doit faire en sorte que tout ce qui est autorisation administrative puisse être obtenu le plus rapidement possible. Mais également, le climat des affaires, je parlerai de la politique fiscale. Donc, quels sont vraiment les avantages fiscaux qui sont mis en avant pour que les investisseurs puissent se lancer dans ce type de projet. Puis le dernier enjeu, je pense que c'est un enjeu qui est lié au contenu local et au capital humain. Donc, il faut vraiment s'assurer à travers ces projets que, tout comme on a pu le faire sur le projet de l'autoroute, qu'on puisse faire suffisamment travailler les PME locales, qu'on puisse les faire monter en compétence à travers ces actions de sous-traitance. Mais également, il faut avoir un capital humain présent, suffisamment bien formé et qui peut justement mener à bien ces projets. Donc, et quand je parle de capital humain à tous les niveaux, déjà, je pense que ça démarre au niveau de l'administration publique sur le pilotage, le montage du projet, mais également sur la phase de mise en œuvre, il faut que on ait suffisamment de compétences humaines d'un point de vue opérationnel pour arriver à réaliser ces projets.
Merci, cher. C'est effectivement très, très, très important. Un bon cadre réglementaire, on va dire institutionnel, un bon climat des affaires, mais oui, surtout un bon capital humain qui, quelque part, permet de préparer des bons contrats, mais également de les exécuter très bien en réduisant les coûts, surtout que pourrait augmenter l'importation d'expatriés. Merci beaucoup, cher. La dernière question, de par votre expérience dans le continent et les tendances que vous remarquez dans le développement des infrastructures, comment voyez-vous l'Afrique à l'horizon 2030, notamment en termes d'atteinte de l'ODD 9, à savoir mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation?
Ce qu'il faut dire, c'est que le développement des infrastructures, bon, c'est un des leviers forts de réduction de la pauvreté. Le constat est sans équivoque. En Afrique subsaharienne, on consacre des sommes relativement faibles aux dépenses d'infrastructures. Je pense que c'est de l'ordre de 2% du PIB. Donc, cette situation fait qu'on a des besoins d'investissement sur les infrastructures en Afrique qui sont élevés, de l'ordre de 130 à 170 milliards de dollars par an. Et sur ce besoin, on en a pour plus de 100 milliards qui sont en déficit. Donc aujourd'hui, il y a un réel enjeu de financement des infrastructures en Afrique. Et ce déficit d'infrastructures, c'est un frein majeur à l'amélioration du climat des affaires. Donc, comme le lien est prouvé, je pense, entre la croissance des infrastructures et la croissance du PIB, je pense que développer les infrastructures, ce sera forcément arriver à réduire la pauvreté dans nos pays. Et je pense pas que l'on puisse aboutir à une croissance durable sans qu'on puisse avoir des infrastructures suffisantes et durables sur le domaine de l'énergie, du transport, d'éthique et de l'alimentation en eau potable. Bon, c'est vrai, sur le secteur de l'eau, il y a eu des efforts qui ont été faits ces dernières années. Je pense que c'est un secteur, sur ce que je viens de citer, c'est peut-être celui sur lequel il y a eu peut-être le plus d'investissement et le plus d'amélioration. Mais je pense que sur le domaine des énergies, sur les transports et sur l'éthique, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Après, comme j'interviens pour un opérateur privé, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même un alignement des intérêts et des stratégies entre ceux d'un opérateur privé comme Eiffage et ceux de bailleurs investisseurs. Donc, aujourd'hui, les bailleurs accordent de plus en plus d'importance aux problématiques de développement durable. Nous, pareil, à travers l'innovation et la recherche et développement, nous travaillons à cette problématique. Donc, la transition écologique est aujourd'hui un des enjeux forts de notre stratégie de développement. C'est vraiment au cœur aujourd'hui de nos stratégies. Je pense que comme les intérêts convergent entre ceux des opérateurs privés et ceux des bailleurs et investisseurs, je suis relativement optimiste pour l'Afrique. Je pense que avoir des infrastructures durables suffisantes n'est pas forcément un rêve. Je pense qu'on peut, d'ici cet horizon que tu évoquais, 2030, arriver à améliorer considérablement la situation en Afrique.
Merci, cher. Vous êtes optimiste, nous sommes optimistes et je pense effectivement que la plupart des Africains sont optimistes. Tout le monde est de plus en plus conscient que le développement économique et social durable passera par le développement d'infrastructures durables. Et cette prise de conscience, effectivement, nous permet d'être optimistes. Juste peut-être pour finir, un dernier mot, cher.
Te remercier pour cette tribune offerte pour nous permettre de parler de ce projet et également t'encourager dans cette initiative que tu mènes pour divulguer davantage ce message sur les enjeux liés au développement des infrastructures en Afrique.
Merci, cher. Effectivement, ceci est un cadre d'échange, un cadre d'information, mais également un cadre de formation donc pour les différents et différentes auditeurs et auditeurs. Merci encore, cher.
Merci, Mamoudou.
Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.